Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Bon, l'été arrive, enfin, bientôt, ce sera pas long. Plusieurs ont l'intention de mettre en location leur propriété ou encore peut-être avez-vous l'intention de louer une propriété sur Airbnb ou autre plateforme du genre pour un séjour durant vos vacances. C'est sûr qu'Airbnb, on s'en est régulièrement parlé ici à cette émission, c'est très populaire chez nous. Montréal est d'ailleurs dans le top 3, c'est sorti, là. Ça vient de sortir dernièrement. Montréal dans le top 3, place mondiale pour les revenus tirés de la location d'une propriété sur Airbnb. C'est quand même pas mal intéressant. Évidemment, si vous avez vous-même l'intention de louer. Évidemment, si vous êtes locataire de gens qui louent sur Airbnb, vous avez peut-être moins envie de célébrer parce que de plus en plus de gens qui se plaignent du bruit, du tapage, enfin de tout ce que ça peut faire de va-et-vient, à tel point que dans certains secteurs, on a pu le vérifier dans la région de Montréal, on pense au plateau Mont-Royal, on pense à Rosemont-Petite-Patrie. Je sais que dans certaines cours à condo de l'Île-des-Sœurs ou du centre-ville, c'est interdit, c'est dans le règlement de copropriété, les gens ne veulent pas de location à court terme d'Airbnb. Alors, on se pose la question, est-ce que c'est la fin de ce genre de plateforme de location? Est-ce la fin d'Airbnb qui est de moins en moins tolérée dans certains quartiers? On s'est dit, appelons Danny Papineau, qui est fondateur de Airbnb Secrets et de We Chalet, c'est-à-dire même genre de plateforme, mais pour la location de chalet. Merci, Danny, d'être là.
Mais ça fait plaisir.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, de le fait que ça soit de moins en moins toléré, Airbnb?
Ben, c'est pas nouveau. Je veux dire, ça fait 10 ans qu'Airbnb existe, puis ça a toujours été un peu comme ça. Plus que ça prend d'ampleur, plus qu'il y a des règlements qui changent, des lois qui s'appliquent. Mais Airbnb, la fin, non.
Ouais, hein,
non, ils sont rendus à 4,5 millions de listings. Je veux dire, ça a quasiment doublé dans la dernière année. Ça n'arrête pas. Puis, je veux dire, ils veulent...
Ça a doublé dans la dernière année?
Ben, à peu près, oui. Il me semble un an et demi, il y avait à peu près 2 millions de listings. Ils sont rendus à 4,5 millions de listings. Puis, je veux dire, ils ont une vision de la compagnie sur à peu près 100 ans pour grandir. Ils veulent mettre le premier Airbnb sur Mars quand que Elon Musk va coloniser Mars.
Ouais.
Donc, Airbnb...
Oui, tu peux dire que tu vas faire ça, mais bon.
Ah, ben non, ils sont bons à créer l'histoire. Ça fait partie de leur culture d'entreprise. Quand Cuba a ouvert les portes aux Américains, la première compagnie qui était là-bas, c'était Airbnb. Puis ils veulent faire partie de l'histoire Airbnb. Tu sais, ça fait partie.
Qui sont... Mais est-ce que tu peux comprendre que toi, t'en as beaucoup quand même de logements, là? T'en es rendu à combien maintenant?
Ben, j'ai mes propres logements. Je veux dire, j'ai une maison de campagne à proche de Magog. Puis j'ai un duplex avec ma soeur, ma famille sur le plateau. Mais j'ai commencé à faire de la gestion Airbnb pour d'autres personnes, clés en main. Puis c'est ça, je suis en train de créer ma propre plateforme We Chalet qui est un Airbnb de propriété en nature qui va offrir des locations clés en main, je veux dire, de l'entretien clés en main pour les personnes et qui va aller beaucoup plus loin qu'Airbnb dans bien des aspects qu'Airbnb ne couvre pas présentement. Fait que, ouais, je suis assez impliqué.
Et est-ce que tu sens qu'il y a déjà une espèce des gens réfractaires à ces plateformes, surtout Airbnb parce que c'est pas mal la plus grosse. Hein. Il y a Homely Days aussi, il y en a d'autres, mais
plein,
c'est surtout...
Il y en a plein. Puis chaque plateforme commence à se spécialiser. Là, We Chalet, justement, c'est le propriétaire nature. Je veux dire, il y en a que c'est pour des familles. Il y a différents types de plateformes, mais non, je pense encore c'est un conflit de génération. C'est, je veux dire, la plupart des gens qui sont contre Airbnb. Je suis allé, donc la Ville de Québec a récemment organisé, il y a à peu près un mois, une rencontre avec les citoyens. J'ai des amis qui font du Airbnb là-bas, je suis allé avec eux autres. Et il y avait à peu près une centaine de personnes dans la salle. Je dirais à peu près 80, c'était des gens de 65 ans et plus.
Qui se plaignaient.
qui étaient contre Airbnb.
Ouais.
Et à peu près 20 personnes qui étaient 40 ans et moins. Tout le monde, à peu près, de cette génération-là était pour. Donc, d'après moi, c'est juste... Un changement de génération, plus le temps va passer, plus les 65 ans et plus vont vieillir. Et quand la génération, les millennials vont vraiment devenir au pouvoir, ça fait partie de... Si on est avec un iPad dans les mains, je veux dire, ça fait partie de... Je veux dire, dans ma recherche pour We Chalet, OK, une des choses que les millennials recherchent pour faire l'achat d'un chalet, c'est qu'ils n'ont pas assez d'argent pour l'acheter, le chalet. Fait qu'ils prévoient le monétiser en le louant à court terme. Et gros, des gens qui veulent acheter leur condo, même leur premier achat, ils disent hey, « je vais louer une chambre pour justement sur un site comme Airbnb pour pouvoir le financer. » Oui. Donc,
Mais qu'est-ce que tu dis à tous ceux qui disent « oui, mais ça crée une pression sur les loyers » C'est un peu comme la gentrification de certains quartiers là, où il y a une espèce de remplacement d'une certaine clientèle par une clientèle plus en moyen qui vient, qui achète, qui rénove, qui retape, qui met en condo puis qui revend. Oui, il y a ça aussi, puis qui finalement finit par pousser les gens moins riches à l'extérieur des beaux quartiers au-dessus.
Ça fait partie de l'histoire de l'humanité, quasiment. Ouais. C'est, je veux dire, ça a toujours été là. Puis si on regarde Montréal, dans toutes les villes canadiennes, je veux dire, j'ai vécu à Vancouver, moi, pendant des années. Vancouver, ouais. Les loyers, c'est des 2-3 fois plus cher qu'à Montréal. Toronto, la même chose. À la New York, je veux dire, c'est 4-5 000 par mois, 3,5.
Ouais.
Fait que quand même, Montréal, il y a de la place... Il y a de la place. Je veux dire, les loyers étaient 500$ par mois pour un 4,5 il n'y a pas longtemps. Je veux dire, c'est normal que les loyers montent. Et si on regarde, mettons, encore une fois, je regarde à Québec parce que j'étais là récemment. Mais le problème, c'est que les nouveaux acheteurs, à Québec, le parc immobilier est très vieux. Et donc, une des problématiques, c'est que les propriétaires, ils ne peuvent pas demander trop cher pour le loyer parce que c'est vieux, c'est pas en bon état. Et là, ils ne sont pas capables de louer leur loyer de façon conventionnelle. Et là, ils veulent se retourner vers Airbnb, mais là, c'est pas, tu sais, la ville ne veut pas le permettre.
La ville, ensuite le gouvernement.
C'est un cercle vicieux parce que là, ils ne peuvent pas réinvestir dans leur building.
Mais on a justement quelqu'un de Québec qui nous appelle, Richard. Bonjour, Richard. Vous louez, vous, sur Airbnb?
En fait, je suis propriétaire d'un condo à Québec. Et je suis des cantons de l'Est. Et puis, mon condominium sert au départ pour l'emploi parce que je m'en sers de showroom pour des lignes de vêtements que je vends à des magasins. Et puis, lorsque je...
Donc, c'est comme un pied-à-terre que vous possédez à Québec, c'est ça? Ouais.
Oui, exactement. Puis, 4 ans, j'ai décidé de le rentabiliser de cette façon-là.
Ouais.
Et puis, j'ai commencé à faire du Airbnb. Puis, j'avais pas les permis. Et puis là, j'ai fait toutes les démarches possibles et imaginaires pour avoir mon permis d'Airbnb. Ça m'a pris 10 mois, 700$ plus tard. Puis, je sais pas combien de fonctionnaires. Finalement, j'ai eu mon permis.
10 mois?
Ça a pris du temps. Ça a été d'un fonctionnaire à l'autre, d'un comité à l'autre. C'était l'enfer. Fait que faire une histoire courte, une fois que j'ai eu mon permis, ils ont mis la ville dans ma fenêtre de condo sans me le dire, OK, permis Airbnb ou quelque chose de même. Les copropriétaires ont vu ça. Ah, là, tout d'un coup, ça a été la montée. Non, on veut pas de ça ici. Non. Et puis, faire une histoire courte, moi, j'ai... nous, à chaque fois que j'ai des locations, on a le profil des personnes qui viennent, on a leur cote.
Ouais.
Je sais qu'ils viennent d'un couple avec 2 enfants de 5 et 8 ans. Il n'y en a jamais eu de problème.
Ouais.
Dans une réunion de copropriétaires, ils m'ont dit telle journée, il y a eu des gros parties. Je dis ah oui, c'est vrai, c'est moi. C'est moi qui recevais des clients et on a fait des phares, effectivement. Fait que. Il y a un petit mieux que je mette 2 joueurs des Remparts de Québec dans mon condo, moi, puis qu'ils soient là à temps plein.
Ouais.
Il n'y en a aucun problème. Ils ont peur d'avoir peur, les gens de Québec. En tout cas...
Quoi, les Remparts, ils ont une mauvaise réputation quand ils habitent quelque part?
Non, mais je veux pas ça, mais 2 jeunes de 19-20 ans, 2 sportifs, il y a des gens qui brassent bien plus qu'un petit couple qui arrive avec 2 enfants. Là.
Ouais.
Puis moi, j'ai refusé plusieurs personnes à Airbnb. Quand je voyais, je sais pas, moi, 4 filles de 30 ans qui venaient fêter le 30e anniversaire, ben je les refusais parce que je voulais pas brasser la cabane non plus puis avoir des plaintes de plus.
Mm-hmm.
Mais malgré le fait qu'il n'y a aucun problème, en plus, ils ont accès directement à mon condo de la porte extérieure. Ils rentrent même pas dans les aires communes. Et puis, ils font tout pour me sortir de là. Ils font tout.
Mais parce que quand vous êtes en copropriété, il y a des règlements, il y a la charte de la copropriété. Souvent, moi, j'ai remarqué, pour avoir déjà été pris dans des histoires de condos, que souvent, ceux qui gèrent la copropriété, c'est ceux qui n'ont pas grand-chose à faire. Donc, ils ont le temps de se voter eux-mêmes. Oui, c'est ça. Ils ont le temps de se voter des règlements pour eux. Toi, tu y vas, t'as pas forcément, t'es jamais là à l'heure pour le bon meeting, ils changent l'heure du meeting, ce qui fait c'est un peu ça qui vous arrive.
Est-ce que c'est permis dans votre...
Ils peuvent changer le règlement, ça leur tente.
Mais présentement, est-ce que ça l'était permis?
Oui, ça l'était permis.
Ah.
Ça l'était parce que ça n'existait pas le Airbnb.
Quand vous avez acheté.
Ça l'était, mais là, ça ne l'est plus? Ils se sont votés quelque chose qui l'interdit? Ça ne l'est plus?
Ça l'est plus, mais j'ai eu mon permis avant qu'ils fassent leur règlement. Puis là, on est avec des avocats. Puis je vais me battre jusqu'au bout là-dedans.
Et ça vous tente pas de déménager puis de racheter autre chose ailleurs?
C'est quoi l'âge de vos co...
Vous avez tout compris.
Ouais.
C'est 60 ans et plus.
Ah-ha.
Vous avez tout compris. Là, c'est des gens... Puis il y a eu une grosse réunion à Québec, Airbnb. Là. C'était épouvantable les commentaires racistes qu'il y avait. Là.
Mm-hmm.
C'est des gens de l'extérieur. C'est des gens qui parlent même pas notre langue. Là, ça fait à manger, ça pue là-dedans. C'est des commentaires complètement ridicule. Et puis, il n'y en a pas de problème. Il n'y en a jamais eu. J'ai eu zéro dommage. J'ai eu zéro problème.
Mais en même temps, Richard, je peux...
de monter dans les cales.
Ouais. Merci beaucoup de votre témoignage. En même temps, je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent... Parce que je pense qu'il y en a eu des histoires d'horreur avec NBRP. Il y a des gens qui arrivaient, qui débarquaient, qui cassaient tout.
Il y a un million de réservations qui vont aller bien. Il y en a une qui va aller mal. Là, les médias vont sauter là-dessus. Oh mon Dieu, il y a eu un dégât Airbnb de 150 000 $ dans cette maison-là à Calgary. Parce qu'il y en a, ça existait. Là, je suppose que ça a passé il y a 2 ans. Mais puis là, tout le monde en parle. Puis là, mon Dieu, il faut arrêter ça. Mais hey, il y a eu un booking que ça n'a pas bien été sur un million qui ont bien été. T'sais. Fait que, il y a beaucoup de peur. Il y a un manque d'éducation. Tu vois, ce monsieur-là, Richard, il choisit ses clients.
Ouais.
Il fait ça de façon respectueuse. Il fait ça depuis 4 ans. Il n'a jamais eu de problème avant ça. Il a juste mis la ville a mis son sticker dans la vitre. Soudainement, les copropriétaires capotent.
Mais tu sais, j'ai Anne qui m'écrit. Elle dit, nous, on a un problème avec une location. Un voisin a loué sa maison avec Airbnb. Puis, à des gens qui débarquent en groupe, qui parlent fort, qui mettent de la musique. Cette maison a une piscine. On va passer un bel été. Moi, je pourrais vous dire, Anne, moi, j'ai mon voisin qui est propriétaire de sa maison, puis ça ressemble pas mal à ça.
Ouais,
la longue terme. Lui, il est là tout le temps.
Tandis que, elle, je me demande, c'est pour combien de temps que ce client-là est là.
C'est ça. Mais bon, en même temps, c'est vrai qu'il faut que tu dises, il faut que tu contrôles les gens à qui
tu
loues.
Oui.
Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences, toi, David?
J'en ai eu au tout début. Ça fait 5 ans, j'en fais depuis à peu près 2012. J'en ai eu quand je connaissais pas comment ça fonctionnait. Puis on s'entend, en 2012, personne parlait d'Airbnb. C'était même pas des médias quand j'ai commencé à en faire, tu sais. Ouais. C'était underground. Mais oui, c'est un problème d'éducation. C'est que quand tu commences sur la plateforme, moi, j'acceptais, OK, quelqu'un veut louer ma maison, j'acceptais tout le monde. Puis oui, à un moment donné, j'ai eu un party qui a fait comme 4 000 $ de dommages à ma propriété.
C'est ça,
mais,
c'est pas toujours intéressant non plus.
Non, mais...
ça peut te coûter très cher.
Non, bien, il y a une assurance, 1 million de responsabilités avec Airbnb. C'est Airbnb qui a payé, c'est l'assurance. Mais je veux dire, depuis ce temps-là...
Mais chez HomeLeadays, par exemple, je pense qu'ils n'ont pas de ce type d'assurance.
Je connais pas le site tant que ça. HomeAway s'est mis à copier Airbnb. Il offre depuis 6 mois à peu près 1 million de
On va voir après la pause aussi d'un point de vue fiscal, est-ce que c'est toujours aussi intéressant parce que, bon, là, le gouvernement s'est impliqué là-dedans, justement parce qu'il y a des gens qui disaient, surtout les grands groupes hôteliers, puis les petits hôteliers disaient, ben là, puis encore, ils continuent de dire, faut arrêter un peu, freiner un peu le mouvement Airbnb ou toutes ces plateformes équivalentes de location
faut
à court terme parce que...
Faut-tu freiner l'Internet aussi?
Ben, tu sais, il y a des gens...
Il faudrait fermer l'Internet, je pense. Ce serait une bonne idée.
Tu sais, c'est le même problème avec l'industrie du taxi versus Uber. Là, c'est l'industrie touristique versus des nouveaux produits qui arrivent. Puis, il faut quand même le dire, si tu payes pas de taxes alors que tous les autres en payent, il y a quand même une question d'iniquité là-dedans. Au Québec, par exemple, on aura l'occasion de l'expliquer après la pause, on est parmi les pays où, enfin, les endroits dans le monde où le gouvernement a dit à Airbnb, ben là, il va falloir que vous collectiez la taxe, TPS, TVQ.
Non,
présentement,
non. Moi, je suis encore pris dans le litige. J'ai Revenu Québec m'est sauté dessus quand je suis sorti publiquement avec Airbnb Secrets. Puis là, j'ai un bill de 62 000 $ de taxes que je me bats depuis 3 ans. Je n'ai même pas passé en cours encore. Je suis rendu à 40 000 $ de frais d'avocat. Et on parle d'Uber. Uber est taxé depuis le mois de septembre 2016. On n'entend plus parler des problèmes d'Uber. C'est taxé, c'est réglementé. Avec Airbnb, ils sont mis à collecter la taxe hôtelière de 3 % depuis octobre 2017. Ça vient tout juste d'être fait.
Oui, parce que j'ai lu ça. Airbnb accepte de percevoir les taxes provinciales sur les locations à court terme au Québec et en Colombie-Britannique.
Ah, écoute, là, je ne l'ai pas vu passer. Moi, écoute, j'ai pas la taxe provinciale c'est pas dur. On va aller sur Airbnb, là. On va faire semblant de louer une propriété. On va voir c'est quoi les taxes qu'ils chargent.
Non, je sais.
C'est 3,5 %. Je l'ai checké il y a à peu près 3 semaines, à moins qu'ils viennent d'avoir changé ça. Mais non. Et c'est très drôle parce qu'ils ont fait le deal de taxation avec Airbnb pour la taxe hôtelière au mois d'octobre 2017. Et 2 semaines après, le scandale Netflix est sorti.
Donc, on n'a plus entendu parler d'Airbnb.
Non, mais Netflix a sorti, OK. Puis là, M. Couillard a dit, oh mon Dieu, ça n'a pas d'allure que Justin Trudeau ne charge pas la TVQ sur Netflix. Il faut que toutes les plateformes Internet collectent la TVQ. Il venait de faire un deal 2 semaines avant. Il n'a pas collecté la TVQ. Puis il y a d'ombre sur le citoyen comme moi. Moi, je suis en cours là, pour dire que c'est Airbnb qui est responsable de payer taxes. Puis ils me disent présentement Revenu Québec, non, c'est pas Airbnb qui doit collecter cette taxe-là.
C'est toi.
C'est le citoyen.
Bon, on va revenir là-dessus tout de suite après la pause. Si vous avez, il y a beaucoup de moutons, regarde, beaucoup de gens qui veulent intervenir sur cette question d'Airbnb. Est-ce que c'est intéressant à louer? Est-ce que vous êtes au contraire tanné d'avoir du monde qui loue à des gens sur Airbnb? 1-866-790-9850 pour nous joindre sans frais partout au Québec et dans la grande région de Montréal. 514-790-9850. On parle de Airbnb et on se disait, bon, est-ce que c'est la fin de cette plateforme? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'en plaignent. Elle est de moins en moins tolérée dans certains quartiers. Mon invité, Danny Papineau, estime que, qui est là-dedans depuis plusieurs années, il a fondé Airbnb Secrets, qui est une espèce de cours que tu fais pour montrer aux gens comment, justement, louer sur Airbnb. Tu me disais, ben, c'est là pour rester. C'est un modèle d'affaires qui est nouveau, un peu sur le modèle Uber. Il y a des gens, d'ailleurs, qui font remarquer, entre autres, que quand tu dis c'est une question de génération, il y a René qui me dit c'est un peu de l'âgisme. Parce que le fait de dire, ben, c'est les vieux qui comprennent pas, mais les jeunes, ils ont compris que c'était intéressant. Bon, on l'aura dit. En même temps, je pense qu'il y a peut-être un peu de vérité là-dedans. C'est pour certaines personnes qui veulent une plus grande tranquillité, voir arriver des locataires sur une base court terme tout le temps, ça peut être fatigant. Tu peux comprendre que ça peut gêner des gens. En même temps, bon, est-ce que c'est ce qu'on peut considérer comme du progrès? Je te dis, c'est le même débat entre chauffeur de taxi et Uber. En même temps, bon, on a Vincent avec nous. Comment voyez ça, vous, Vincent?
Bonjour. Bonjour. Moi, je vois ça de deux œils. En fait, je suis utilisateur de Airbnb.
Oui.
Et j'en ai aussi fait à la maison.
Mm-hmm.
Fait que je prends une minute pour vous raconter ma petite histoire de maison. Donc, moi, je voulais pas faire ça illégalement. On est dans le vieux Longueuil. Donc, je suis allé à la ville, j'ai eu ma lettre, tout a bien été. J'avais le droit de procéder. Je suis même allé m'enregistrer avec le Hébergement Québec, qui sont venus faire une inspection, tout ça, pour être listé en tant qu'autre hébergement, avoir le panonceau d'étoiles, tout ça. Donc, j'ai même contacté mes assurances. Il a fallu que je change de compagnie d'assurance pour être légal pour louer comme ça.
Okay.
Donc, jusque-là, tout va bien. Les assurances m'ont coûté moins cher. Ça. J'étais complètement éberlué de ça. c'est vraiment drôle. Par contre, l'Hébergement Québec, il charge des frais d'environ 280 par année pour ce que moi, je faisais. Donc, et puis, dans le vieux Longueuil, c'est qu'il y en a plein qui font ça, mais tout illégalement. La dame, elle me dit, vous êtes le premier qu'on vient inspecter, mais quand on va sur Airbnb, il y en a à peu près 40 endroits à louer. Donc, moi, je ne pouvais pas charger vraiment plus que 50 par nuit. Fait que je trouvais que je me battais à armes illégales avec les gens autour de moi qui sont pas légales. Donc, déjà là, ça me prenait à peu près 6 dodos par nuit. Puis, comme tu sais, c'est un beau quartier, mais en même temps, c'est pas le plateau. On se ramassait à faire à peu près 25 nuits par année, puis c'était souvent des 1 et 2 dodo. Donc, ça donne quand même pas mal d'ouvrages de ménage. Puis,
si vous voulez,
leur appartement séparé, fait qu'il y avait une salle de bain, tout ça.
Fait que vous avez abandonné finalement?
Bien, on a abandonné parce que, tu sais, ça nous a rapporté à peu près 1 500 $ pour une année. Là, bon, faudrait commencer à charger des taxes, fait qu'il y a l'espèce d'anxiété de, bon, que le gouvernement va commencer à venir inspecter mes finances.
Peut-être qu'ils ont besoin de mon cours Airbnb Secrets parce que je pense qu'il y a de quoi qui va.
Non, mais sur la question des taxes, on s'en parlait pendant la pause. On les charge-tu, on les charge-tu pas? Les gens veulent savoir ça. C'est ça la question qu'ils posent.
C'est une zone grise. Je me bats contre une Québec présentement parce que comme que je disais,
mais t'aimes pas ça? En tout cas, je pense que la plupart du monde n'aime pas se battre contre le Québec. T'sais.
Non, c'est sûr.
C'est souvent une bataille que tu perds. Fait que tu veux pas commencer la guerre.
Avec tout ce qui s'est passé depuis le début de mon cas, là, je veux dire, quand je suis sorti avec ça en 2015, là, Uber n'était pas taxé, les Netflix de ce monde n'étaient pas taxés. Puis moi, j'arrêtais pas de dire que c'est la plateforme qui devait être responsable des taxes. Un an après, en 2016, Uber s'est mis à collecter la taxe. Revenu Québec, pour les montants avant le deal Uber de septembre 2016, là, ils ont fait un deal avec Uber à cette date-là. Donc, les montants avant qui ont pas été taxés, Revenu Québec poursuit Uber en cours supérieur pour 20 millions d'arriérage de taxes. Donc, ils poursuivent la plateforme Uber et non les utilisateurs, les chauffeurs.
Et toi, tu dis, faites pareil
avec Airbnb. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi
puis
vous sautez
lâchez
sur moi?
Mon dos, c'est ça, lâchez-moi. On a David avec nous. Bonjour, David.
Bonjour.
On vous écoute.
Alors, j'ai un cas assez intéressant qui s'est présenté. Je suis propriétaire immobilier. J'ai plusieurs logements à louer dans le résidentiel conventionnel.
Ouais.
Et puis, lors d'une session de bail d'un locataire, je me suis retrouvé avec un nouveau locataire que sur lequel j'ai fait une enquête de crédit, fait des vérifications d'usage employeur, ancien propriétaire, etc. Tout avait l'air super bon, jusqu'à ce que j'ai une plainte d'un autre locataire qui disait, écoute, ça n'a pas de bon sens, 2 h le matin, 3 h le matin, 6 h le matin, si ça, ça rentre, ça sort. Il dit, il y a un va-et-vient constant, il dit, c'est une piquerie, c'est quoi? Mm-hmm. On ne comprend pas.
C'était quoi?
Alors, finalement, c'était le locataire qui louait sur Airbnb, mais pas lui-même. C'est un racket qui existe à Montréal où il y a des agents d'immeubles qui paient des gens pour louer des appartements à leur nom et ils les rémunèrent basés sur les locations qu'ils ont dans ces appartements-là. Alors, je me suis retrouvé, moi, essentiellement, avec un appartement sur Airbnb, j'ai retrouvé les photos tout de l'appartement, mais la personne qui louait n'était jamais là, c'était quelqu'un d'autre qui louait.
Ah oui, donc il y a des gens qui louent des logements pour ensuite les mettre sur Airbnb, c'est ce que vous dites.
Et ouais. dans ce cas-ci, on a c'est, puis littéralement, là, c'est un agent d'immeuble. Il y a un parc immobilier de Airbnb dont il n'est pas du tout le propriétaire.
Ah, je comprends.
Il utilise des gens comme des poteaux pour faire les locations, pour se cacher, pour que ça ne paraisse pas.
Ouais, alors, il y a des gens très créatifs, effectivement. Merci de votre témoignage, Jean-Claude.
Oui, écoutez, moi, c'est assez simple. Moi, j'utilise Airbnb, mais de façon indirecte, parce que c'est mes voisins d'en face, l'autre côté de la ruelle qui l'utilise. C'est le bruit incessant, les parties incessantes. Je me dis, Airbnb, si les gens veulent faire du Airbnb sur le téléphone intelligent ou autre, qui investissent dans l'immobilier locatif. Puis moi, j'ai acheté un condo il y a 25 ans parce que je voulais pas être dans le locatif. Je voulais avoir ma maison, je voulais avoir la paix. Ça m'intéresse pas. Puis là, on est en condo, puis on est en train de regarder pour changer la réglementation des meubles là, parce qu'on veut se protéger de ça. C'est inacceptable. Puis j'ai beau aviser les voisins en face, puis ça, il y a rien à faire quand ils sont sur le party. Là, c'est parti pour la nuit. J'appelle la police, ils viennent, ça arrête, ça recommence le lendemain. C'est incessant. Fait que si les gens veulent faire de l'argent, qui assume les risques.
Au moins qu'ils respectent les règles aussi. Oui, tout à fait.
Oui, mais ça arrive avec du long terme. Moi, j'avais un duplex dans Hochelaga, puis à un moment donné, mon voisin a mis un locataire à long terme pendant un an, que la fille, elle faisait des parties à 3-4 heures du matin. Elle avait des chums qui visitaient de la nuit et t'entendais de crier de toutes les bars. Puis je faisais ça sur le mur, j'étais calique, j'essaie de dormir, tu sais. Puis j'étais pogné avec elle pendant un an. Je veux dire, cet exemple-là de ce monsieur-là, si le gars qui fait du Airbnb comme son voisin, s'il prenait la diligence de demander « Regarde, je veux pas de party chez moi, je veux pas de bruit. » Moi, présentement, j'en ai pas de problème de party. J'en ai pas pantoute. C'est ma règle de base. Aucun party, aucun bruit fort après 11 heures. Puis si j'ai le moindre doute que la personne pourrait sembler à vouloir louer pour faire un party, j'ai tellement de demandes que je l'élimine. Tu sais, je veux dire, fait que c'est de l'éducation qui manque.
Merci. Est-ce qu'on a le temps pour Jacinthe? Vite. Bonjour, Jacinthe. Très rapidement.
Je suis désolée que vous ne passez vite parce que le dernier monsieur qui a parlé, j'étais exactement dans la même ligne que lui.
Ah, c'est vrai?
Moi, je suis en condo depuis 10 ans.
Ouais.
La moitié des copropriétaires louent à long terme, 12 mois et plus. Et ce sont les ceux qui ne viennent jamais aux assemblées, qui se foutent des règlements de la copropriété. Et c'est nous qui restons dans l'immeuble qui devons vivre avec les locataires.
Mm-hmm.
Et la déclaration de copropriété, pour votre information, tantôt, les règlements, ça ne change pas comme ça des assemblées. Il y a l'article 38, 1.15 qui regarde la location. Tu n'as pas le droit de louer moins que 12 mois. Tu n'as pas le droit de louer ta chambre. Puis ça, c'est dans notre déclaration de base. Et moi, je suis complètement contre ça parce que les propriétaires qui veulent faire de l'argent, ils se foutent de l'immeuble. Ils ne viennent même pas aux réunions.
Mm-hmm.
On en fait, moi, ça fait 10 ans que j'en fais de la gestion. À chaque fois qu'on fait une réunion, on n'a pas le quorum. On est 4 propriétaires sur 16 propriétaires parce que ceux qui louent, ils s'en foutent des règlements. Fait qu'imaginez si on commence à avoir de la location Airbnb, du monde qui sort, du monde qui rentre, du monde qui se fout de l'immeuble, qui n'ont aucun intérêt à l'immeuble. On le vit avec les locations régulières présentement.
Ouais.
C'est à long terme.
Merci. Donc, merci beaucoup. Ouais. Elle a eu beaucoup de temps quand même, là.
Ouais.
Marie-Claude m'écrit pour terminer, là. Elle est dans la soixantaine avec son conjoint. Ils voyagent beaucoup sur Airbnb en Italie en 2015. On a réservé toutes nos nuits pour la France, l'Espagne, pour cet été. Elle dit on est très satisfaits. Les autres choisissent. Ils ont notre profil. Moi, chaque fois, ça me permet de rencontrer plein de gens. Et c'est pour ça que les voyageurs de 50 ans et plus sont très appréciés des autres. Ils sont propres, en ordre et plus calmes. Donc, quelqu'un là, qui est un peu plus âgé.
Ben ouais, hein, ouais, c'est le fun des gens plus âgés.
Et qui aime beaucoup Airbnb. Écoute, merci. La question des taxes, écoute, on n'a pas avancé. C'est un dossier qui est à suivre. Merci beaucoup, Dany Papineau, d'être venu nous voir.
Merci, fait plaisir.
Tout de suite après la pause, c'est les 50 ans cette année de cette fabuleuse pièce de Michel Tremblay, Les Belles-Sœurs, avec Mario Girard. On voit comment cette pièce a changé le Québec. À tout de suite.